Alors là, en ce moment, je suis placé rue Faber, hein, au pied des Invalides, place des Invalides. Et là, la castagne dure. Donc il y a les CRS qui ont coupé déjà la manifestation en deux tout à l'heure, vers 5 heures. Et les anarchistes, ils ont pris à partie. Donc là, il y a des cars de partout, des CRS de partout, des gaz lacrymogènes à volonté. Et donc nous, on ne peut pas rentrer maintenant, puisque on est obligé de passer par là pour avoir accès au bus. Ta charge? D'ailleurs, on va se reculer. Ah ouais, ça pète de partout.
On écoutait un son par téléphone avec Boris. C'était en direct sur PFM mardi 14 juin à 18h30. Boris qui était à Paris à la manif pour le retrait de la loi travail. On vous rassure, il est bien rentré sur Arras. Il est même ici dans le studio de PFM avec aussi à ses côtés Paul et Nat. Salut à vous trois.
Bonjour.
Salut. Alors Nat, animateur de l'émission Les Deux Doigts dans la Prise, Paul, intervenant régulier aussi sur Radio PFM, vous étiez tous les trois à cette manif hein, à Paris mardi dernier. Alors avant d'évoquer la fin de cette journée, le dénouement de cette manifestation, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance, de comment vous avez vu un petit peu cette manifestation hein, qui est partie de la place d'Italie vers 13h?
Oui, ouais. Bah donc place d'Italie, donc vers 13h, on est arrivé pile poil. Hein. Et puis après, on a remonté l'avenue des Gobelins, boulevard du Port-Royal, avenue et boulevard Montparnasse pour arriver aux Invalides. Donc en résumé, l'ambiance assez festive quand même hein, quand on est arrivé, puisqu'on a vu quand même un petit bout du concert d'Ashka et les Saltimbanques hein, qui était donc place d'Italie. On avait du mal à bouger même les pieds hein, tellement c'était blindé de monde. Assez festive. Et puis après, on est remonté tout doucement avenue des Gobelins. Là, on a eu du mal quand même à commencer à avancer, puisque apparemment la manifestation était déjà très 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 avancée. Il y en avait déjà qui étaient arrivés boulevard Montparnasse et c'est à ce moment-là que ça a commencé un petit peu à dégénérer devant et où on a eu les premières infos d'ailleurs de ce qui se passait là-bas. L'ambiance, moi j'ai trouvé ça plutôt assez effarant parce que je m'attendais à une manifestation mais pas de cette ampleur. Alors on a beau se disputer sur les chiffres un petit peu de qui, combien, machin, bidule, on pouvait pas savoir. Par contre, il y avait énormément, énormément de monde, beaucoup de syndicats, de l'ambiance, hein, notamment un coup de chapeau encore une fois aux dockers de Fos-sur-Mer, du Havre et puis de Marseille qui ont mis vraiment une sacrée bonne ambiance, assez festif. Et puis j'ai remarqué quand même que les gens aux alentours qui ne participaient pas non plus à la manifestation, eux aussi, ils étaient tout sourire, ils avaient l'impression de regarder quelque chose comme s'ils regardaient la télé. On a vu d'ailleurs des gens assis sur des chaises en plein milieu du cortège dire en blaguant ouais, on regarde la télé, c'est mieux que la vraie qu'on a dans notre maison. Donc tu vois, voilà, donc c'était plutôt assez bon quoi.
Nat, sur l'ambiance de la manif?
Au départ de la manif, super ambiance, comme vient de dire Boris, avec un concert dès l'arrivée des 13h de HK Les Saltimbanques, vraiment beaucoup de monde. J'avais pas le souvenir d'avoir fait une manif avec autant de monde, au moins à Paris, depuis très longtemps. Puis des gens de tous bords, vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges avec les gens. Après, la manif a mis du temps. Enfin, à démarrer, mais après pour l'organisation des cortèges, etc., on est resté un moment place d'Italie, beaucoup d'échanges avec les gens, de la musique, de la revendication, mais de la fête aussi, quoi. C'était joyeux.
Paul, sur l'ambiance?
Oui, moi je confirme aussi cette impression de foule. Aussi, j'ai l'impression que j'avais jamais vécu une manif avec autant de monde et cette ambiance, le côté coloré, le côté festive. Et 3-4 heures de gens qui marchent dans Paris, c'est 3-4 heures de gens qui marchent. Moi, j'ai cherché le bus pendant une heure et quart, je reviens, je reviens à la fin de la manif et ça continuait d'arriver, ça faisait plus d'une heure et quart que j'étais arrivé et je n'étais pas le premier à arriver. Ça m'a frappé. Et puis alors, l'autre aspect qui m'a frappé tout au long de la manif, il y avait des stands d'organisation, des stands aussi, les syndicats qui avaient préparé des casse-croûtes, et je pensais là-dedans, si on regarde la manif, on a tendance à penser combien il y a de personnes qui sont venues. Mais je me disais, pour que cette manif ait lieu, mais c'est des milliers de personnes qui se sont mobilisées pour préparer la manif. Si on fait des casse-croûtes, ben, il faut faire les casse-croûtes. Si on distribue des papiers, il faut faire des papiers. Et on avait, j'ai, par exemple, Acrimed, c'est un truc qui m'a été donné, analyse critique des médias, je ne connaissais pas. Des petits journaux, j'ai essayé de suivre, il y en avait quantité de tout petits journaux, même des initiatives individuelles. Il y a un gars qui m'a donné un papier qu'il avait fait, avec tout un tas de références pour comprendre la loi. Et un individu qui avait fait ça, ou une dame, et visiblement elle avait 70 ans, qui s'était fait un panneau, Valls, c'est la dernière. C'est du tonnerre, c'est de la poésie en plein milieu, ouais, de la manif, quoi. Il y avait, ou bien un slogan sur un magasin d'opticiens, ouvrez les yeux. Bah, moi, je trouve que c'est mieux que... C'est mieux qu'un tract, quoi.
Justement, puisqu'on est dans les slogans, vous avez peut-être des exemples, Nat et Boris ?
Ouais, j'en rejoins Paul aussi. Par rapport à justement l'ambiance générale, là, ce que tu demandais, sauf qu'il y avait vraiment un côté festif. Enfin, avant que la manif démarre, il y avait une sensation d'être, je sais pas, à la fête de l'Huma, où il y avait des stands, il y avait des vendeurs de livres, il y avait des trucs. Et puis beaucoup de poésie, en fin de compte, sur les murs. Alors oui, c'est de la dégradation. Moi, un de mes préférés, après, il y en avait plein et je ne les ai pas tous retenus, mais il y en a beaucoup qui m'ont fait sourire. Et mon préféré, c'était « Ce n'est pas la manif qui déborde, c'est le débordement qui se manifeste ». Et je trouvais ça très, très joli, quoi.
Boris, c'est un slogan que tu as retenu, toi, hein ?
Ouais, moi, j'ai retenu un truc qui était sur le ministère de l'Outre-mer, où l'Outre-mer avait été barré, c'était marqué « Ministère des colonies ». Moi, je trouve ça bien.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après ce côté festif ? Parce qu'on sait qu'une des stratégies, alors policières, mais bien sûr décidées par les préfets, voire peut-être l'État, enfin plus haut dans l'État, cette stratégie, c'est de couper les manifestations en deux, quoi. Ouais. Avec des cordons qui s'insèrent au cœur de la manif. C'est ça qui s'est passé à nouveau ? Nat ?
Ouais, en fait, objectivement, il y a eu de la casse au début de manif, ce qui est rare. D'habitude, les casseurs se mettent derrière. C'est les fans de manif, les fans de cortège qui dégénèrent. Là, c'était avant, dès le départ de la manif, voire même un petit peu avant, et c'était en avant du cortège. Donc, il y a eu de la casse, il y a eu beaucoup de bruit. C'est toujours ciblé, attention, on reparlera de la casse après, mais c'est quand même les banques, c'est quand même les panneaux déco, etc. C'est assez ciblé, c'est pas de la casse aveugle. Et puis, donc il y a eu ça au départ, voilà, on savait que ça se passait devant, et notamment Place des Invalides où ça cartonnait avec les flics. Il y a eu les canons à eau, ce qui est très rare à Paris, pour faire bouger les manifestants. Il y a eu des lacrymogènes en veux-tu en voilà, etc. Donc ça, c'est la partie castagne, etc. La manif part, etc. Et à un moment donné dans le cortège, alors il était 17h, donc moi j'étais j'étais au fond Place d'Italie, j'ai remonté le cortège par les côtés pour rejoindre des copains de la CNT, et ensuite je continuais encore avant pour essayer de voir le début de la manif justement. Et là donc, parce que je pense que le milieu de cortège, il y a les CRS qui sont placés pour vraiment faire un barrage au milieu du cortège, un endroit pas du tout, c'était pas à un syndicat précis ou à un mouvement précis ou à la fin de la manif, c'était vraiment au milieu. Moi, j'étais au milieu de plein de drapeaux CGT, FO, c'était un peu mélangé, c'était beaucoup de CGT. Mais voilà, c'était pas d'un syndicat là. Ils coupent à un moment donné, net. Moi, je suis passé, ils étaient en train de s'installer, je suis passé. Et effectivement, je me suis rendu compte que y a une partie de la manif qui continuait d'avancer et l'autre partie qui était bloquée. Et de là, donc il y a les manifestants qui sont derrière qui veulent avancer parce que c'est le parcours de la manif. Et là, les flics qui refusent, quoi. Et c'est à partir de là où ça fait monter la pression, clairement. Moi, j'ai vu vraiment j'ai vu des mecs jeter des trucs sur des flics. C'était pas des casseurs du tout. C'est des mecs qui étaient pris par la pression qui était fait monter. De dire pourquoi vous coupez ? Aucune explication. J'ai continué après quelques tentatives d'ouverture de barrage qui ont été infructueuses. J'ai voulu continuer de remonter le boulevard pour dire « tant pis, moi je vais au bout de la manif ». Au bout de la manif, je tombe sur le même barrage de flics qui dit « non, vous ne pouvez pas avancer ». Donc, on ne peut pas reculer, on ne peut pas avancer. On dit « qu'est-ce qu'on fait au milieu ?» Et ben, au milieu, tu te mets un peu sur le côté, je discutais avec une dame, on fumait une cigarette, et ils t'envoyaient carrément les lacrymogènes sur les côtés, sur des gens complètement... pour le coup, il n'y avait pas de casseurs à ce moment-là, pas du tout. Mais on pouvait le devenir, vraiment. Moi, j'ai refait des trucs que je n'avais pas fait depuis longtemps...
Qu'est-ce que t'as fait, Nat ?
Ah oui, t'avais une bonne stratégie apparemment. Hein. T'as joué au golf ?
Là, j'ai fait du sport, j'avais profité d'avoir un peu de temps. Non, mais ils balancent des lacrymogènes vraiment sur des gens. Il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes, il n'y avait pas d'enfants, mais il y aurait vraiment pu en avoir. C'était pas, il n'y en avait pas. À l'endroit où j'étais, il n'y en avait pas. Mais j'en ai vu dans le cortège. Ils auraient pu décider de couper le cortège au moment où il y avait des enfants. Je sais pas. Et la stratégie était de faire monter la sauce. Ils envoyaient des lacrymogènes. Donc moi, je les renvoyais, j'ai renvoyé sur les flics. Mais c'était pas pour attaquer les flics, c'était pour protéger les mecs sur les côtés qui se prennent pas de la fumée parce que ça pique à mort. J'ai quand même la voix cassée.
Boris, t'as pris un peu de lacrymo aussi, toi ?
Ouais, bon, légèrement au départ. Après, quand on était au téléphone, là, c'était moins évident. Il a fallu vraiment que je fasse attention parce que là, oui, en effet, ça avait la gorge qui piquait. Alors, il disait tout à l'heure, ce qui est nouveau, donc, déjà, ce qui est nouveau. Ce qui était inédit aussi, c'est les applaudissements des manifestants, syndicats, etc., confondus, lorsque les vitrines d'une agence bancaire explosent sous le coup des autonomes. Bon, c'est pas vraiment. Moi, j'aime pas non plus ce mot de casseur. Ça s'était encore jamais vu. Ce qu'il disait aussi, les canons à eau utilisés depuis des blindés, quand même, des blindés en plein milieu de Paris, à plusieurs endroits, pour complètement désolidariser la manifestation. Il se met un peu la panique, en fait, finalement, et faire monter, comme disait Nat, la sauce. Et puis la stratégie des forces de l'ordre qui est complètement incompréhensible, même pour les gens qui étaient aux abords et qui descendaient de chez eux pour voir, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont bloqué toutes les rues parallèles, donc des boulevards où donc il n'y avait aucune position de repli ni d'éparpillement. On était obligé de se retourner s'il se passait quelque chose et de se piétiner, de toute façon, faut le dire. Et en même temps, c'est dans le trajet du cortège, donc avec des barrières anti-émeutes. C'est la première fois aussi qu'on voit ça à Paris, à part des fois de temps en temps, ils ont leurs boucliers, donc ça bloque les petites rues. Ils coupent la manifestation en son milieu à plusieurs endroits avec des canons à eau, en aspergeant les gens et en continuant de les asperger tout en continuant à frapper ceux qui arrivaient derrière. Et là, on s'aperçoit que finalement, oui, moi j'ai discuté avec des gens de syndicats qui étaient complètement outrés parce que eux, ils étaient là avec leurs petits drapeaux, etc. Ils manifestaient normalement et ils étaient obligés de circuler ou de se barrer à gauche et à droite pour pas se prendre des coups de matraque et ils savaient pas pourquoi en fait. Donc il y a une stratégie complètement bizarre des forces de l'ordre qui est même incompréhensible d'ailleurs pour couper cette manifestation. On sait pas trop, personne n'a compris en fait.
Paul, sur la stratégie policière ?
Alors moi en fait je n'ai pas, j'étais déjà sorti de la manif. Quand ils ont coupé la manif en morceaux, j'avais déjà passé l'arrivée. Mais je suis passé dans toute la partie qui avait été cassée la première fois, quoi, en tout début de manif. Et alors là, c'est un peu, si tu veux, il y a eu plus deux sentiments. D'abord, un sentiment de tristesse de voir tous ces trucs de casse. Ça a été d'abord de la tristesse. Et puis de la peur, ou plus exactement des peurs, qui ne sont pas toutes du même ordre. Il y a un slogan qui m'a marqué à ce moment-là, « casser pour exister ». C'était marqué « casser pour exister ». Et j'ai pensé à cette jeunesse qui, pour exister, n'arrive pas à trouver d'autre chose. C'est vraiment quand il n'y a plus rien, alors... La fureur qui ressort pour quand même exister. À la fois, c'est signe de vie, et c'est plutôt positif. C'est pas des gens qui sont complètement cassés, puisqu'ils arrivent à casser. Mais en même temps, ça pose question. Ça pose question, et par rapport à ça, d'autres types de peurs. J'ai été à un moment, on était canalisés. Et je me disais, si les CRS décident de nous casser, ils peuvent le faire. C'est sûr qu'on ne pourra pas s'en sortir. Le nombre qu'ils étaient, la manière dont c'était cadré. Et là, j'avais vraiment peur de dire, s'ils décident de te tabasser, t'es fait comme un rat. Il n'y a pas de porte de sortie. C'était tout. Et puis, le troisième niveau de peur, c'était par rapport à la démocratie. Quand quand on a des gouvernements qui s'en prennent au peuple, que la seule solution qui reste, c'est la rue et la violence dans la rue. En plus, on laisse jouer les forces sociales. Ce matin, j'écoutais à la radio Valls qui dit il faut interdire que la CGT n'est pas capable de contrôler les manifs, il faut l'interdire. Non, c'est à l'État de protéger les manifestants. Ce n'est pas à la CGT de protéger les manifestants contre des personnes qui viennent casser leurs manifs. Il ne faut pas tout mélanger. C'est la fonction de l'État d'assurer la protection des manifestants. Le droit de manifester, il existe en France, et ça me paraît relativement important. Si on laisse la rue, si l'État n'assure pas cette fonction de protéger les droits, et le droit de manifester fait partie des droits entiers, là, il y a un danger réel. La montée des SA en Allemagne, la montée des SS en Allemagne, c'est la rue qui, on a laissé faire dans la rue. On a laissé des minorités impressionner la population, faire peur à la population. Et ça me paraît grave. C'est grave pour la démocratie. Parce qu'il faut bien savoir que les propriétaires du capital, les banques, entre Blum et Hitler, ils n'ont pas hésité un moment. Ils ont choisi Hitler.
Alors,
en 73, au Chili, attends, je redonne un deuxième. C'est pareil, quand la démocratie avait mis Allende et que Allende allait repasser, ils ont choisi la dictature. Ils ont choisi de mettre Pinochet. Et dans cette stratégie-là, j'ai vraiment peur qu'on passe à l'étape d'après, où finalement, la démocratie ne vote plus pour nous, on est complètement désavoué, passons à l'étape d'après, où on se débarrasse de la démocratie.
Alors Boris a utilisé le mot « désolidariser », on a l'impression qu'une des stratégies finalement, c'est aussi de monter les manifestants les uns contre les autres dans les manifs, hein, bons manifestants contre casseurs.
Justement, j'ai bien écouté, je suis assez d'accord avec ce que dit Paul, hein, puisque moi j'ai même repéré un slogan où c'était marqué « je pense, donc je casse ». Qui résume aussi bien l'histoire. J'ai aussi vu une dame qui posait la question. Alors, quand on était bloqué, hein, juste en haut des Invalides, on a pu à un moment donné bifurquer pour aller sur la place Vauban et faire le tour derrière pour arriver donc rue Faber et remonter après Pont de l'Alma, Nicolas III, etc. pour aller chercher le bus. Hein. Et une dame qui a posé la question, mais d'une manière assez violente. Enfin, on sentait qu'elle a envie de ressortir quelque chose parce qu'elle avait observé la scène qui était là qui se passait depuis un petit moment, et elle a posé la question, qui lui a pas répondu d'ailleurs, à un CRS, elle lui a dit, mais comment voulez-vous, pourquoi vous faites ça, comment voulez-vous qu'on vous comprenne la manière dont vous agissez si vous n'expliquez pas comment on doit vous comprendre ? Et là, ça résume aussi toute l'affaire. Les gens ne comprennent pas pourquoi, justement, cette montée de violence, en fait, elle vient parce que le cortège est long, il fait plus de 5 km. Ça aurait pu être très fluide comme ça l'était à un moment donné. Mais comme ça a été coupé plusieurs fois, à force, les gens s'énervent, ils ne comprennent pas. En plus, il n'y a aucune possibilité de sortie puisque, à un moment donné, vers 17h20, moi j'ai des trucs précis, le SO et de la CGT, ils ont incité plutôt les manifestants à ne pas continuer jusqu'aux Invalides et à tourner au niveau de l'avenue de Tourville, où étaient garés les cars de l'autre côté, parce que c'est un peu compliqué géographiquement. Et finalement, il y a eu des arrestations, etc. Un deuxième canon en haut est arrivé par l'avenue de la Motte-Piquet, hein, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, et des petits groupes de gens de la BAC, de flics de la BAC, chargent des manifestants rue de Tourville, donc ils ne pouvaient même pas non plus échapper par là. Donc ça fait qu'en fait, il restait plus qu'au boulevard Montparnasse, le redescendre, et puis faire le va-et-vient comme ça, jusqu'à ce que les flics finalement resserrent leur tenaille au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Je ne sais pas.
Net.
Ouais, par rapport à... Moi, c'est du... Enfin, pareil, hein, c'est un témoignage de ce que j'ai vécu. Et je pense que aux différentes charges qu'il y a eu, à ce moment-là, il n'y avait absolument aucun casseur, je le redis, en fait, de diviser les bons manifestants, les mauvais manifestants. Les autonomes, les casseurs, on les appelle comme on veut, ou ceux qui choisissent une autre méthode de se faire entendre, on en pense ce qu'on en voudra, mais ils étaient bien groupés en début de cortège. Et ils étaient, et effectivement, ils ont attaqué les flics, ils ont cassé des vitrines, etc. Mais il y en avait. Ils n'ont pas profité de la manif pour faire dégénérer la manif. Ils étaient même avant, au départ de la manif, à la limite, pendant la manif. Moi, tous les moments, je me suis retrouvé bloqué. J'ai fait une paire de manifs où je me suis retrouvé dans des situations un peu chaudes avec les flics et tout. Je l'avais choisi. Je savais qu'à ce moment-là, ça allait dégénérer. J'avais le choix de partir ou de rester. Ou où il y avait une manif, il y a la manif officielle. Des fois, il y a une manifestation officielle. Il y a un groupe qui part sur le côté. Tu sais que quand tu les suis à ce moment-là, il peut t'arriver des bricoles, mais tu l'as choisi. Là, ce qui m'a paru inouï, c'est qu'on se retrouvait dans une situation où on ne comprenait pas pourquoi on se faisait gazer, vraiment. Parce qu'il n'y avait pas de casse à ce moment-là, et il n'y avait pas de consigne surtout. Et à la fin, sur la place des Invalides, c'était de la folie, parce que tu avais des rangées de CRS qui arrivaient, qui chargeaient, mais ils ne chargeaient pas pour te faire partir à un endroit, vu qu'ils faisaient une nasse, en fait. Ils couraient, ils faisaient un cercle. Donc en fait, tu te retrouves au milieu du cercle. Et ça en devenait même rigolo. Je discutais avec un mec, je dis, mais on veut bien jouer avec vous, mais il faut savoir la règle du jeu. Parce qu'ils te font faire une dispersion, mais tu sais pas où aller. Tu vois, à un moment donné, ils te disent pas où t'as pas le droit d'aller, et dès que t'essayes de te sauver, ils te bloquent de l'autre côté. C'était vraiment incroyable. Dernier point par rapport aux blessés, il y a un bilan officiel de 11 blessés chez les manifestants. Soit j'ai vraiment l'œil de lynx, c'est parce que j'en ai vu au moins 5 des blessés. J'ai vu la moitié des blessés. Enfin, 5 blessés, après je sais pas comment mesure, mais j'ai vu 5 mecs avec des gros pansements sur la tête, avec du sang. Alors, soit c'est pas des...
T'étais au bon endroit.
Ils sont pas comptés comme des blessés. Soit j'étais dans l'endroit où j'ai vu la moitié des victimes. Donc je pense qu'il y en a un petit peu plus côté manifestant.
On a parlé des violences policières. On a parlé aussi un petit peu des violences côté manifestants. Violences ciblées ou pas sur des banques, des assurances. Il y a aussi eu cet élément qui a été repris beaucoup dans les médias aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la façade, les vitrines de l'hôpital Necker, donc un hôpital pour enfants. Donc les médias dominants étaient un petit peu émus par cette casse. Comment vous avez vu un petit peu ça? Peut-être Nat, je crois que tu as vu un petit peu cette scène là où...
Alors moi j'ai pas vu la scène en direct de la cage, je te dis, j'étais au milieu de la manif à ce moment-là et les casseurs étaient déjà passés depuis longtemps. De toute façon tu remontais tout le trajet de la manif, t'avais tout qui était déjà explosé. Encore une fois j'ai pas vu de mec. Alors bien sûr c'est pas c'est pas le vent qui a cassé les vitrines, mais j'ai pas pour rappeler qu'à ce moment-là les casseurs étaient déjà passés en fait. Donc nous tout le cortège était rythmé par des bris de banques, de certains abribus,
d'assureurs, que des multinationales en fait ou des infrastructures capitalistes en gros.
Des trucs assez ciblés. De ce que j'ai vu, il y avait pas une petite épicerie, la vitrine était nickel, les deux banques à côté, les banques étaient explosées. Il y avait même LCL ou je sais pas quoi qui avait déjà mis des planches de bois en prévision de la casse. Donc tu vois, c'était attendu. Encore une fois, cette technique de casse, est-ce qu'elle sert, est-ce qu'elle dessert, est-ce qu'elle fait qu'on en parle, est-ce qu'elle fait qu'on n'en parle pas, est-ce qu'elle fait qu'on parle que de ça, je ne sais pas. Enfin, j'ai un avis, mais je ne sais pas si c'est une vérité. En tout cas, c'est pas de la casse aveugle. On dit que c'est des abrutis qui cassent. Non, c'est pas des abrutis, vu qu'ils ciblent, ils savent très bien les cibles visées. Ils savent très bien. C'est toujours agrémenté d'un slogan qui tape juste, généralement.
Qui confirme pourquoi ils ont cassé, souvent.
Qui explique pourquoi ils ont cassé. Pour ce qui est de l'hôpital Necker, effectivement, il y a l'émotion de dire la casse d'une vitrine d'un enfant malade. Enfin, pas d'une vitrine, d'un hôpital. Enfant, ouais. D'un hôpital où il y a des enfants malades. Effectivement, c'est un acte débile de s'attaquer à ce truc. Faut pas oublier qu'aussi, pendant les premières charges de CRS, les CRS s'étaient mis devant ces vitres aussi. Donc, entre 100 casseurs qui viennent casser volontairement les vitres d'un hôpital et peut-être autant de casseurs, mais qui jetaient des trucs sur les flics qui s'étaient postés bien devant, il y a une petite nuance qui est importante de savoir. Quoi.
C'est confirmé, hein. J'ai regardé plusieurs blogs différents et à différents niveaux. C'est pas volontaire en fait, cette casse à l'hôpital Necker. Il y a des gens qui habitaient dans le coin qui ont dit non, c'est les CRS qui étaient devant, ils ont jeté sur les CRS. Si les CRS se baissent, forcément ça tombe dans la vitrine. Et voilà, donc c'était pas volontaire, c'était impulsif, c'était pas vraiment pensé pour détruire la vitrine de l'hôpital.
Paul, peut-être un dernier mot sur justement l'utilisation d'une certaine forme de violence dans les manifestations. Est-ce que ça brouille le message? Est-ce que c'est utile? On peut comprendre aussi qu'il y a des gens qu'on est un petit peu marre de promenades finalement organisées dans les villes. Les manifestations ces dernières années, c'est plutôt des promenades syndicales, quoi.
Oui. Alors, deux aspects. Les gens qui en viennent à casser, c'est parce qu'ils ne voient pas d'autres solutions. Ça me fait penser en Palestine, où un jour, on interviewait quelqu'un, mais quand vous tirez contre Israël, vous détruisez la cause des Palestiniens. Il disait, mais les seules fois qu'on parle des Palestiniens, c'est quand ils tirent contre Israël. Et effectivement, il va y avoir de la part d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'autres possibilités pour qu'on les entende. Alors ça, c'est un premier truc. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que cette attitude-là, globalement, elle dessert la manif. Ce matin, j'appelle ma mère, qui a 87 ans, sur la manif, et ma mère a toujours soutenu le mouvement syndical, elle ne m'a pas parlé de la manif. Et 700 personnes sur 1 million de manifestants, on est une personne sur 10 000 qui fait partie de ces groupes-là. Sur 10 000, il y a 7 personnes sur 10 000, si on prend les proportions, ils disent de l'ordre de 700 casseurs. C'est une personne sur 10 000. Et quand on parle de la manif, on ne parle pas de ceux qui ont fait la manif, on parle de ces 7 personnes pour 10 000. C'est-à-dire que l'info est complètement tronquée, où on ne parle plus de l'objet premier, qu'est-ce que c'est que cette loi, pour quelle raison les gens sont dans la rue, on va détourner l'objet de la manif pour parler d'autre chose qui détourne l'attention, quoi. Et où les gens sont sensibles.
Et en même temps, quand là c'était une manif nationale où effectivement ça vient à castagner, quoi, mais quand tu regardes quand c'est les manifs régionales, ils vont parler de Rennes ou de Nantes, des villes où il y a souvent de la casse. S'il y a plus de monde à Toulouse, ils ne parlent pas de Toulouse. Donc est-ce qu'il faudrait un jour voir s'il n'y a aucune casse dans aucune manif,
si on parlera encore des manifs.
Voilà, ça sert comme ça dessert en fait, c'est ça qui est compliqué. Mais je crois que la stratégie de la casse, elle est pas, c'est pas pour être médiatisé ou pas, hein, je pense.
Et puis pour finir avec les violences, hein, on a souvent entendu, le slogan embrasser un flic, hein, quand il y a eu les attentats. Je suis tout à fait d'accord, on embrasse un flic quand ils font leur boulot, ils protègent le pays, mais on le déteste quand il fait pas son boulot. Et qui charge des manifestants qui sont plutôt pacifiques. Et puis après, pour ces fameux autonomes et ceux qui cherchent la castagne avec la police et puis les vitrines, etc., je pense que M. Valls, qui demande à la CGT d'interdire plus de manifestations, etc., un jour ou l'autre, si ça continue ce conflit entre cette force de frappe entre les CRS d'un côté et les autonomes ou les casseurs de l'autre, ils attendront plus qu'il y ait une manifestation. Là, ils profitent peut-être un peu des manifestations pour pouvoir se montrer, mais un jour ou l'autre, ils n'attendront plus les manifestations, ils le feront indépendamment. Et là, on ne pourra pas accuser ni les syndicats, ni quoi que ce soit de pas faire le nécessaire pour empêcher ça.
Nat, dernier mot ?
Encore une fois, sans faire de parano, etc., mais la vieille méthode policière, c'est aussi de commencer... Là, il y avait vraiment des groupes d'autonomes organisés pour casser, etc. Il y a des manifs qui dégénèrent. Souvent, le premier coup qui est lancé dans une vitrine, c'est par des flics en civil. C'est prouvé, c'est depuis les années 60, ça se passe comme ça. Le problème, c'est que maintenant, il y a plus de mecs qui peuvent filmer avec leur portable. On retrouve, c'est souvent prouvé. D'ailleurs, c'est des mecs qui sont épinglés par leur autorité, etc. Mais quand tu sens qu'il y a un petit groupe un peu tendu, qui attend que ça, la première pierre qui est jetée, elle amène toutes les autres. Et c'est régulier que il y a un flic en civil qui jette un petit coup pour attiser le feu. C'est pas nouveau.
Je rajouterais aussi ce qui est inédit, mais vraiment très 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 vite. Ils sont maintenant les CRS n'ont plus de matricule, ce qui est un tort déjà et d'une. Et en plus, ils s'en prennent à la presse. Ce qui est des choses une inédite aussi. Moi, j'ai vu deux photographes complètement estourbis quitter la manif complètement dans les vapes, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose qui se faisait pas avant. Et ils sont bien marqués presse. Hein.
Et la presse met le réseau sanguin, enfin le résus sanguin sur leur sac.
Boris, Nat et Paul, merci. Je rappelle que vous étiez tous les trois à cette manifestation à Paris mardi dernier. Et merci pour ce témoignage.
Merci.
Et les prochains rendez-vous le
23 et 28 juin.
Voilà.